Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode Dessine ton taf, consacré aujourd'hui aux libertés fondamentales dans l'entreprise. Pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui le professeur Michel Minet, professeur au CNAM. Merci d'être là, professeur, et bienvenue. Nous accueillerons aussi Clément Orsay pour le cabinet ExoCE et aussi maître Jean-Baptiste Gavigné qui interviendra en dernière partie de webinaire. On commence tout de suite avec vous, professeur. C'est à vous.
Je vous remercie pour votre invitation. Alors, vous m'avez proposé avec donc mes confrères de faire le point sur les libertés fondamentales dans l'entreprise. Donc, nous allons vous donner quelques éléments et puis j'espère que ça vous mettra en appétit pour aller consulter un certain nombre de textes et un certain nombre de jurisprudence parce que c'est un véritable continent, les libertés fondamentales sur le plan juridique. Encore faut-il, bien évidemment, les rendre effectives. Alors, nous sommes en 2022 et en fait, même si cela se fait de manière très discrète, nous célébrons cette année les 40 ans des lois Auroux. Et ces lois Auroux de 1982, hein, du nom, bien évidemment, du ministre du Travail de l'époque, ces lois Auroux, elles ont été précédées par un rapport, le rapport Auroux, qui portait justement sur les droits des travailleurs, formule intéressante. Et ce rapport avait une formulation particulièrement intéressante. Et le rapport nous disait « les travailleurs doivent être des citoyens à part entière dans l'entreprise ». Et cette formule, nous allons la retrouver dans la loi du 4 août 1982, relative justement aux libertés des travailleurs dans l'entreprise. Cette loi, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, elle a été codifiée dans le Code du travail et elle est bien évidemment toujours applicable. Cette loi du 4 août n'a pas été votée le 4 août par hasard, mais en référence bien évidemment à la nuit du 4 août 1789, au cours de laquelle un certain nombre de privilèges féodaux d'ancien régime avaient été abolis. Ce qui est très intéressant avec cette loi du 4 août, toujours d'actualité, eh bien, c'est que nous allons avoir une affirmation des libertés des travailleurs dans l'entreprise. Et à travers cette affirmation, la loi, le Code du travail, va venir instituer une relation entre les droits de l'homme et le droit du travail. Donc, les droits de l'homme avaient pu déjà être bien évidemment mobilisés dans le travail. Ce n'est pas entièrement nouveau en 1982, mais sur le plan juridique, nous avons là une véritable institution de cette relation. Un article du Code du travail va être modifié à plusieurs reprises. Il va déjà être affirmé en 1982 dans un texte pour s'opposer justement à l'arbitraire qui pouvait exister dans certaines entreprises sur le plan disciplinaire, notamment à travers le règlement intérieur. Et ce texte ensuite va se développer notamment par une loi Aubry de 1992 à la suite d'un rapport du professeur Gérard Lioncan sur les libertés publiques dans l'emploi. Alors, je ne vais pas vous citer trop de numéros d'articles, mais celui-ci, quand même, il faut le connaître. C'est l'article L, comme la loi L1121-1. Que nous dit cet article L1121-1 ? Eh bien, il nous dit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne serait pas justifié par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché. Je vous fais un rapide commentaire de ce texte. On affirme donc dans ce texte que la personne au travail, le travailleur salarié, eh bien, il demeure titulaire de droits que l'on va appeler droit des personnes, et il demeure titulaire de liberté individuelle et collective. Alors, dans un autre vocabulaire, on dirait, cette personne, elle demeure titulaire des droits de l'homme dans son activité professionnelle. Cette personne, elle va donc être titulaire, même quand elle va être dans son activité professionnelle, elle va être titulaire des libertés et droits fondamentaux reconnus à toute personne. Alors, bien évidemment, dans la vie professionnelle, dans l'activité professionnelle, ces libertés et ces droits ne peuvent pas s'exprimer comme quand on est en dehors de l'activité professionnelle. Il y a donc des restrictions qui sont possibles, mais les interdictions ne sont pas possibles. Il est possible de restreindre l'exercice des droits et libertés dans l'activité professionnelle. Il n'est pas possible d'interdire l'exercice des droits et libertés dans l'activité professionnelle. Nous reviendrons sur ce point. Et ces restrictions, elles ne sont pas à la discrétion de l'entreprise, de l'employeur. Ces restrictions, eh bien, elles doivent être justifiées. Elles doivent être justifiées, c'est un terme très fort en droit, et elles doivent être justifiées par quoi ? Elles doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir. Elles doivent être justifiées par la prestation de travail à réaliser. Et si la justification est admise, eh bien, ces restrictions doivent en plus être proportionnées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que l'on va devoir tenir compte des exigences de l'activité professionnelle, mais on doit également tenir compte du fait que la personne doit pouvoir continuer à exercer un certain nombre de ses droits fondamentaux. On peut bien évidemment, si on parle dans le secteur tertiaire d'un salarié qui travaille dans un bureau, on peut restreindre ses communications personnelles. On peut restreindre l'envoi ou la réception de mails à caractère personnel, mais on ne peut pas l'interdire. Et autre point important, eh bien, c'est le fait que cette affirmation, elle est opposable à tous. C'est-à-dire quand on nous dit « nul ne peut apporter », on pense évidemment à l'employeur en tant que personne juridique, mais il peut s'agir de tout responsable hiérarchique, il peut s'agir des autres salariés de l'entreprise, il peut également s'agir du comité social économique qui doit être vigilant dans ses activités sociales et culturelles, et il peut s'agir, le cas échéant, des organisations syndicales qui peuvent favoriser l'exercice des libertés et droits fondamentaux et qui ne doivent pas prévoir dans des accords, comme cela a pu se voir parfois, qui ne doivent pas prévoir de dispositions qui auraient pour effet justement de restreindre l'exercice de ces droits et de ces libertés. Alors ce texte a été bien évidemment mis en œuvre, il a donné lieu à une jurisprudence très riche, on va en donner quelques exemples dans quelques instants, mais en particulier, en 2017, eh bien, la Cour de cassation est venue apporter une nouvelle précision. Et dans cet arrêt de 2017, du 22 novembre 2017, eh bien, la Cour de cassation nous dit que l'employeur, ouvrez les guillemets, l'employeur est investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié. Donc là, on a une contribution du juge à la construction de ces droits, du régime juridique de ces libertés et droits dans l'entreprise. Bien évidemment, l'employeur ne doit pas porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux, mais en plus, il doit agir s'il y a une atteinte pour faire cesser cette atteinte. Il y a une vieille formule juridique qui nous dit que qui peut et n'empêche, pêche. Si l'employeur peut faire cesser une atteinte à une liberté, eh bien, il doit intervenir. Et s'il ne le fait pas, eh bien, il engage sa responsabilité. Alors, ces droits et libertés, ils ont commencé à être mis en œuvre, en particulier dans une affaire tout à fait intéressante. C'est une illustration, hein. Bien évidemment, les droits et libertés étaient mis en œuvre avant. Mais sur le plan de la jurisprudence, nous avons eu une affaire tout à fait intéressante avec l'affaire de Monsieur Claveau. Monsieur Claveau, et certains d'entre vous connaissent sans doute cette affaire, Monsieur Claveau était ouvrier dans l'usine d'Alop à Montluçon, dans l'Allier, et il fabriquait des pneus. Et un jour, il a accordé un entretien à un journal, L'Humanité. Et dans ce journal, eh bien, il a décrit ses conditions de travail et il a formulé un certain nombre de critiques, notamment sur le fait, eh bien, qu'il était obligé de travailler la nuit. Et il avait l'article avait été intitulé « Vol de nuit ». Donc, il avait formulé des critiques assez vives concernant ses conditions de travail, mais il n'avait pas communiqué de secret de fabrication et il n'avait pas tenu de propos diffamatoires. Cet entretien avait déplu à la direction, qu'il l'avait convoqué à un entretien préalable et qu'il l'avait licencié. Et on a eu à cette époque un débat pour savoir si le licenciement était justifié ou non, et rapidement il a été décidé que ce licenciement n'était pas justifié. Mais ensuite s'est posé la question de la réparation pour le salarié qui avait été licencié. Est-ce que le salarié avait simplement droit à des dommages-intérêts, ou bien, et c'est la solution qui va être retenue et qui est fondamentale, ou bien est-ce que, puisque ce licenciement est liberticide, puisque ce licenciement porte atteinte à un des droits les plus fondamentaux, est-ce que la sanction ne devrait pas être au niveau le plus élevé possible? Le niveau de la sanction indique le niveau du droit protégé. Puisque le droit protégé est un droit fondamental, la sanction doit être au niveau le plus élevé possible. Et donc, il a été jugé que ce licenciement était nul. Ce licenciement était juridiquement nul, c'est-à-dire qu'il était regardé comme n'étant jamais intervenu, et le salarié a donc droit, dans ce cas, s'il le souhaite, à la poursuite de son contrat de travail et à la réparation intégrale de tous les préjudices qu'il a subis. Et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Le salarié a retrouvé son emploi et a poursuivi son activité professionnelle jusqu'à la retraite. Cette jurisprudence est fondatrice puisqu'en fait, elle vient nous dire, à partir du moment où il y a violation d'une liberté fondamentale dans l'entreprise, même s'il n'y a pas de texte qui le prévoit explicitement, la sanction de cette violation, eh bien, c'est l'annulité. L'annulité de l'acte. Et l'acte est regardé comme n'ayant jamais eu lieu, comme n'étant jamais intervenu. Donc, le salarié a droit à la réparation intégrale de tous les préjudices, c'est-à-dire d'abord la réparation en nature. Retrouver son emploi, obtenir une promotion, obtenir des conditions de travail satisfaisantes qui lui auraient été refusées, etc. Je ne développe pas ce point, mais c'est important. Retenons réparation intégrale. Ces libertés et droits fondamentaux, ils vont pouvoir être mobilisés de façon différente dans l'entreprise et dans les branches professionnelles. Ces libertés et droits fondamentaux, ils doivent normalement inspirer les décisions de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise doit prendre des décisions pour permettre à chaque salarié, eh bien, justement, d'exercer ses libertés et droits fondamentaux. C'est une question qui est également posée aux acteurs sociaux. Les organisations syndicales et les employeurs sont invités par le droit à négocier des accords d'entreprise qui vont permettre justement l'exercice de ces libertés et droits fondamentaux, et il en est de même au niveau des branches d'activité et au niveau national interprofessionnel. Un exemple parmi tant d'autres, quand on examine le droit de mener une vie familiale normale, eh bien ce droit invite les acteurs sociaux et les employeurs à négocier, par exemple, des dispositions pour permettre aux personnes qui sont aidantes, aux salariés qui sont aidants, de pouvoir exercer justement cette responsabilité et cette activité. Mais bien évidemment, parfois nous sommes dans des situations plus difficiles et ces libertés et droits fondamentaux, ils vont pouvoir s'opposer à un certain nombre de décisions de l'employeur sur toute une série de terrains. Je vais vous donner quelques illustrations dans quelques instants. On parle de liberté et de droit. Juste un mot pour rappeler que nous parlons de liberté quand il s'agit de prérogatives individuelles où en fait la personne peut exercer sa liberté. Et pour pouvoir exercer sa liberté, eh bien, ce dont elle a besoin, c'est que le pouvoir n'intervienne pas pour l'en empêcher. Et c'est par exemple ce qui se passe avec la liberté d'expression. Donc, c'est la conception libérale depuis 1789. Mais en 1946, en France, pour se limiter à l'exemple français, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, eh bien, en 1946, avec le préambule de 1946, on a justement affirmé des droits, ce que l'on appelle parfois des droits créances, c'est-à-dire qu'on a considéré que pour bien exercer certaines libertés, eh bien, il était nécessaire de bénéficier d'un certain nombre de droits et que là, le pouvoir devait intervenir pour aider à l'exercice de ces droits. Une illustration très simple, hein, la liberté syndicale, bien évidemment, la personne peut se syndiquer ou peut ne pas se syndiquer, c'est son choix, c'est sa liberté. En revanche, pour exercer cette liberté syndicale, on a besoin de délégués, on a besoin de locaux, on a besoin de moyens de communication, on a besoin d'un certain nombre de droits, et c'est ce que la loi va affirmer progressivement, notamment après mai 68 et après 1982. Ces libertés et droits fondamentaux, c'est une question qui est souvent posée. Il n'y a pas de liste, ou plus exactement, il y a une liste qui est en permanence en cours d'écriture, en cours de construction. Donc, c'est le terme que l'on emploie. On parle de catalogue des libertés et droits fondamentaux. C'est le terme que l'on emploie notamment en droit international. Nous allons retrouver un certain nombre de ces libertés et droits fondamentaux où, eh bien, dans le droit international des droits de l'homme, dans le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, dans des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, dans la Charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe et sur un autre terrain, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et puis, bien évidemment, dans les textes constitutionnels, la déclaration de 1789, le préambule de 1946 et encore quelques autres textes. Donc, si je peux formuler une invitation, je vous invite à lire ces textes, parce que si ces textes ne sont pas connus, eh bien, ils ne sont pas mobilisés. Quand on examine ces libertés et droits de la personne, on peut faire de nombreux classements. On peut faire de nombreuses typologies. Rapidement, je vous propose une typologie où on classerait d'un côté les libertés et droits fondamentaux du citoyen qui vont être amenés à être mis en œuvre parfois dans l'entreprise et les libertés et droits spécifiques du travailleur. Alors, liberté et droits du citoyen, qu'est-ce que nous allons trouver là? Nous allons trouver bien évidemment la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, eh bien, elle peut s'exprimer, si j'ose dire, dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, selon différents canaux. Et nous avons aujourd'hui de nombreuses jurisprudences, par exemple, qui concernent la question de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Nous allons trouver le droit à la vie privée. Le droit à la vie privée, le droit à la vie personnelle, où là, la jurisprudence nous dit notamment que même au temps et au lieu de travail, le salarié conserve le droit à l'intimité de sa vie privée. Même pendant ses heures de travail, sur son lieu de travail, avec l'ordinateur de l'entreprise, le salarié a le droit d'envoyer et de recevoir des courriels à caractère personnel, évidemment, dans une certaine limite. Il faut pas que ça empiète trop sur son activité professionnelle, mais on ne peut pas le lui interdire. Le droit de mener une vie familiale normale est un droit qui est de plus en plus souvent mobilisé. Mener une vie familiale normale, c'est une aspiration, mais là, nous parlons du droit de mener une vie familiale normale. C'est un droit reconnu, par exemple, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est un droit qui est reconnu par la Convention numéro 156 de l'OIT et c'est un droit qui est mis en œuvre par le juge dans un certain nombre d'affaires quand il est saisi. Et c'est un droit qui devrait davantage être mobilisé dans les accords collectifs. C'est un droit qui va permettre, par exemple, à un ou à une salariée de s'opposer à des modifications d'horaires qui lui sont imposées et qui ne lui permettent plus, justement, d'exercer ses responsabilités à l'égard, par exemple, de ses jeunes enfants. C'est terriblement stéréotypé, mais quand nous regardons la jurisprudence, même si elle ne concerne pas que des femmes, elle concerne le plus souvent quand même des jeunes femmes qui ont des enfants en bas âge et qui sont confrontés à des aménagements d'horaires qui sont problématiques. Donc, ce droit de mener une vie familiale normale, il est évidemment important. Il peut aussi inspirer des demandes et donner un fondement juridique à des demandes de salariés, notamment pour obtenir, par exemple, des changements d'horaire ou pour obtenir des mutations géographiques. Le droit d'agir en justice, c'est bien évidemment un droit fondamental de tout citoyen, et le salarié ne peut pas être sanctionné, ne peut pas subir de mesures de rétorsion parce qu'il a agi en justice, et notamment parce qu'il a agi en justice contre son employeur, par exemple parce qu'il aurait agi en justice pour obtenir la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation en 2013. Et puis, nous allons trouver des libertés qui sont spécifiques aux travailleurs. La liberté du travail. La liberté du travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travailleur a la liberté de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté. Et cette liberté du travail, eh bien, elle va pouvoir être opposée à un certain nombre de clauses qui peuvent exister, y compris dans les contrats de travail, les clauses de dédiformation, les clauses de non-concurrence, les clauses d'exclusivité. Cette liberté fondamentale du travail va permettre d'annuler ou de restreindre très fortement ces clauses contractuelles. La liberté dans le travail. Alors ça, la liberté dans le travail, elle est prévue par notamment la déclaration de Philadelphie de 1944 de l'Organisation internationale du travail, hein, où l'OIT nous dit que les États doivent mettre en œuvre des programmes où les travailleurs auraient la possibilité de mettre en œuvre leurs connaissances et leurs habiletés et d'œuvrer au mieux au bien-être commun. C'est-à-dire que nous avons là un texte sur le contenu du travail et un texte sur le sens du travail. C'est évidemment une question d'une très forte actualité, alors que le travail se transforme. C'est une question qui aujourd'hui doit être davantage mobilisée. Nous avons des bases juridiques, mais ce sont des bases juridiques qui aujourd'hui ne sont pas mobilisées. Le droit d'occuper un emploi. Eh bien, le droit d'occuper un emploi, le droit au travail, si on veut. Ce droit à l'emploi, il est prévu constitutionnellement, il est prévu au niveau international, mais il n'est pas reconnu par le Conseil constitutionnel comme étant un droit individuel opposable à l'employeur. Le Conseil constitutionnel considère que les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre des politiques qui vont permettre au plus grand nombre d'occuper un emploi. Ce droit à l'emploi, eh bien, il n'a pas été reconnu non plus par la Cour de cassation dans un arrêt de 2017 comme étant un droit individuel opposable à l'employeur. Le droit à la sauvegarde de sa santé est évidemment un droit tout à fait essentiel que l'on voit aujourd'hui non respecté dans un certain nombre d'affaires. Hein. Nous avons eu récemment l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Chambre des appels correctionnels, dans l'affaire France Télécom, où des méthodes de gestion ont été reconnues comme entraînant un harcèlement moral institutionnel qui avait provoqué des suicides, des tentatives de suicide, des dépressions nerveuses, des dégradations de la santé pour toute la collectivité de travail. Donc, ce droit à la sauvegarde de la santé, en tant que droit fondamental, il s'exprime par différents textes et par différents droits. J'ai pas le temps de développer, mais j'attirerai simplement l'attention sur le droit de retrait qui permet à tout travailleur de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Et ce droit de retrait peut être exercé à l'encontre de toute situation où le salarié a un motif raisonnable de penser qu'il y a un danger. Donc cela va nettement au-delà d'une situation dangereuse. Le droit d'expression qui est un droit collectif, qui doit être mis en œuvre dans les entreprises, qui n'est pas mis en œuvre, qui est toujours prévu dans le Code du travail, ce droit d'expression, aujourd'hui, il serait particulièrement pertinent de le négocier dans des accords d'entreprise pour permettre aux salariés de s'exprimer collectivement sur le contenu et l'organisation de leur travail dans un monde où le travail se transforme sous l'effet des évolutions numériques, technologiques, de la transition écologique, des nouvelles approches du travail. Eh bien, ce droit d'expression, il aurait toute sa place, comme le disait un éminent ergonome, le professeur Wissner, il faut faire confiance à l'intelligence collective des travailleurs et le droit d'expression serait une opportunité. Je ne vais pas avoir le temps de développer, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'égalité de traitement et la non-discrimination. Il s'agit de deux droits différents qui évidemment se complètent, mais ne sont pas à confondre. L'égalité de traitement, la non-discrimination. Et puis enfin, ce n'est pas exhaustif, mais les libertés individuelles d'exercice collectif, la liberté syndicale, le droit d'élire ses représentants, le droit de grève, eh bien toutes ces libertés sont évidemment des libertés fondamentales qui sont garanties par un certain nombre de textes, et c'est évidemment là encore un sujet d'actualité. Je crois qu'il nous reste, il me reste 2 minutes. Alors, je voudrais dire que la Ligue des droits de l'homme est évidemment très investi dans la sauvegarde et la promotion des droits de l'homme. Et elle le fait aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Nous aurons la semaine prochaine l'anniversaire de la Fédération internationale des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme agit donc au niveau international par le biais de sa FIDH. Elle agit au niveau européen. Elle agit en coopération avec d'autres organisations, par exemple dans le cadre d'une organisation qui s'appelle Euromed, Europe Méditerranée, où on était la semaine dernière à Bruxelles pour une réunion des ligues des droits de l'homme et des organisations associées qui existent en Europe et dans les pays du pourtour méditerranéen pour travailler ensemble sur un certain nombre de questions, par exemple sur la question de la dette. Et puis la Ligue des droits de l'homme, elle est présente à travers plus de 300 sections à travers le territoire national, et ces sections sont très investies sur la question sur les questions de protection des droits de l'homme. Elles sont très investies sur le plan du soutien, sur le plan de l'information, et la Ligue des droits de l'homme, eh bien, elle mène également un certain nombre de procès sur des affaires qui lui paraissent importantes, des procès qui peuvent concerner la liberté d'expression ou l'atteinte à la liberté d'expression, des procès qui peuvent concerner des travailleurs migrants, des travailleurs étrangers. Et la Ligue des droits de l'homme, elle est un peu moins sollicitée, elle est sollicitée, mais elle est un peu moins sollicitée puisqu'il y a sans doute les organisations syndicales qui prennent en charge ces questions sur les questions des libertés fondamentales dans l'entreprise. Mais la Ligue des droits de l'homme a pu mener quelques procès concernant notamment des questions de discrimination dans le travail. Et la Ligue des droits de l'homme, en ce moment, mène une action concernant en particulier les travailleurs des plateformes au regard notamment, pas exclusivement, mais au regard notamment de l'accès aux algorithmes. Donc, c'est une action de groupe qui est en cours d'être construite actuellement. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire. J'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais il faut partager le temps de parole.
Merci beaucoup, professeur. Effectivement, vous faites bien de rappeler que vous intervenez aujourd'hui pour la Ligue des droits de l'homme France, et qu'on remercie, puisque elle a répondu à notre invitation et a permis votre participation aujourd'hui, et c'est vraiment très important. Je vais commencer, vu que Khadija nous a rejoint maintenant. J'aurais 2 questions à vous poser. La première, justement, concernant la Ligue. Vous avez expliqué qu'elle intervient pour défendre un certain nombre de personnes dans différentes situations. Comment on peut se rapprocher de la Ligue pour se faire aider? Comment ça se passe de façon pratique, puisque bon, à peu près tout le monde a une idée de comment se rapprocher du syndicat, etc. Mais effectivement, la Ligue reste un interlocuteur important quand on parle de liberté de façon générale. Et puis chacun est libre, comme vous l'avez souligné, de faire appel à une organisation syndicale ou à n'importe quelle autre organisation pour défendre ses intérêts. Je commencerai par cette question. Et puis la deuxième question est liée à ce que vous disiez au début de votre propos, c'est-à-dire que la loi en France conditionne l'exercice des libertés fondamentales, de toutes les libertés, à la tâche, à la nature de la tâche à réaliser. Ce qui est une conciliation qui parfois est assez difficile à aménager. Aujourd'hui, quel élément on peut avoir pour apprécier si, effectivement, la restriction qui m'est imposée est proportionnée au regard du travail que j'ai à faire? Est-ce qu'il s'agit seulement de la libre appréciation de l'employeur ou est-ce que le salarié a son mot à dire, le travailleur de façon générale a son mot à dire? Et si oui, comment? Et comment répondre à cette double exigence qui n'est pas simple?
D'accord. Alors, sur la première question qui est relativement simple, en fait, la Ligue des droits de l'homme, elle a un siège à Paris, hein, dans le 18e arrondissement. Donc, on peut la contacter très, très facilement de ce point de vue. Et autrement, on peut obtenir par le siège l'adresse de la section locale, hein, puisque nous avons plus de 300 sections à travers la France, et donc on peut rentrer en contact très facilement avec la Ligue au niveau local, et ensuite on peut voir si il s'agit de mener une action de type de soutien ou bien s'il s'agit de mener une action de type d'information, d'organiser un débat, ou bien s'il s'agit de mener une action juridique ou une action judiciaire. Et donc, dans ce cas, tout est centralisé à notre siège avec notre excellent service juridique qui mène donc un certain nombre de procès sur un certain nombre de sujets. Donc, soit le siège, soit les sections locales qui vous feront bien évidemment bon accueil. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si j'ai pas complètement répondu, vous me le redirez. Sur le deuxième point, ce qui est très important, c'est qu'en 1982, on affirme dans la loi, et c'est toujours dans la loi, et c'est dans les textes européens et internationaux, la personne au travail est titulaire de droit. Et le citoyen, quand il rentre dans l'entreprise, il n'abandonne pas sa citoyenneté. Il continue d'être titulaire de droit. Alors, ces droits, comme on l'a vu tout à l'heure, ils peuvent subir un certain nombre de restrictions. Je réinsiste parce que le point est essentiel, ils ne peuvent pas être supprimés. L'exercice de ces droits ne peut pas être interdit, mais ils peuvent subir un certain nombre de restrictions. Et il va falloir, première étape, il y a deux tests. Premier test, il va falloir regarder si la restriction, elle est justifiée. Et il y a un certain nombre de restrictions qui vont être justifiées, ne serait-ce que le fait que quand on est au travail, eh bien, on ne peut pas librement aller et venir. Ça va de soi. On doit réaliser une prestation de travail qui se situe, même si on est itinérant, dans un certain cadre géographique. Donc, est-ce que la restriction est justifiée? Et ensuite, si elle est justifiée, et c'est un premier débat qui est important, et la justification, elle n'est pas, je vous le disais tout à l'heure, à la discrétion de l'employeur ou à la discrétion de la hiérarchie, la restriction, elle doit être justifiée au regard de quelque chose qui est très précis, qui est la tâche à accomplir. Et c'est très important, nous avons ici la tâche à accomplir, alors que certains voudraient que nous ayons le bon fonctionnement de l'entreprise. La tâche à accomplir, c'est beaucoup plus restrictif. C'est au regard de la prestation. Bien. Ensuite, on va examiner la proportionnalité. Alors, un exemple très simple, excusez-moi, mais on n'a pas beaucoup de temps. On peut dire à un salarié qu'il doit limiter ses connexions personnelles sur Internet pour aller, je ne sais pas, chercher un billet de train ou faire une réservation. On peut exiger de lui de limiter. En revanche, on ne peut pas lui interdire. Mais dans les affaires que nous avons aujourd'hui sur la proportionnalité, ce sont des affaires qui sont très simples. On a eu une affaire où, par exemple, le salarié avait consulté des sites Internet pendant plus de 50 heures au cours d'un mois. Eh bien, le juge a dit que c'était disproportionné. Nous serons dans quelques mois ou dans quelques années des affaires où, évidemment, il sera beaucoup plus délicat d'apprécier la proportionnalité. Et puis un dernier mot, j'ai pas voulu développer ce point, il est essentiel, mais je crois qu'un de mes confrères va le développer, c'est que sur toutes ces affaires, l'acteur principal, c'est celui qu'on a appelé hier le délégué du personnel et qui s'appelle maintenant le délégué du comité social et économique. C'est extrêmement important. Depuis 1992, et maintenant dans le cadre du comité social et économique, chaque délégué peut déclencher un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles. Il peut déclencher un droit d'alerte, c'est-à-dire qu'il peut saisir l'employeur, et le Code du travail est très précis, il nous dit que si le délégué constate une atteinte de lui-même ou par le biais d'un salarié, il saisit immédiatement l'employeur. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a là quelque chose d'intolérable. Porter atteinte à une liberté fondamentale, c'est intolérable. Et l'employeur saisit, c'est extrêmement précis, doit sans délai procéder à une enquête avec le délégué. Et à l'issue de cette enquête conjointe, l'employeur doit prendre les mesures pour faire cesser cette atteinte aux libertés. La procédure peut s'arrêter à ce stade-là, mais bien évidemment, la procédure peut aller plus loin parce qu'il peut y avoir divergence, divergence sur la réalité de l'atteinte, divergence sur les mesures à prendre, sur la nature des mesures, divergence parce que l'employeur n'a pas voulu faire l'enquête. Eh bien, dans ce cas, le délégué, s'il s'est saisi lui-même, ou bien le délégué, s'il a été saisi par un salarié et que le salarié ne s'y oppose pas, le délégué peut saisir directement le conseil de prud'homme, le bureau de jugement, et là, il y a une procédure particulière, une procédure accélérée au fond, qui va permettre d'obtenir rapidement une décision. Cette procédure est extrêmement efficace. Le point très important, c'est que cette procédure peut être mise en œuvre par chaque délégué. Et là, on voit que dans certaines entreprises, eh bien, des accords ont été conclus qui prévoient que ce droit d'alerte ne pourrait être mis en œuvre que par décision du comité social et économique. Il se trouve que la semaine prochaine, eh bien, je vais plaider justement pour demander l'annulation d'une disposition d'un accord collectif qui prévoit que ce droit d'alerte ne peut être mis en œuvre que par le biais du comité social et économique. Et ce droit n'est plus reconnu dans l'accord d'entreprise comme étant un droit de chaque délégué. Eh bien, cette clause, de mon point de vue, est tout à fait illégale au regard du Code du travail. Donc, nous avons là un acteur, le délégué, qui détient un droit d'alerte extrêmement pertinent, extrêmement performant quand il est mis en œuvre. Je pourrais développer, mais je crois que mes confrères doivent intervenir sur ce point. Eh bien, si vous avez des actions de formation, je crois qu'il faut former sur ce droit d'alerte.
Merci beaucoup. Si vous y a des questions, je vous propose qu'on puisse les retenir puisque ça va être le moment pour nous de donner la parole à Clément Orsay. Donc Clément Orsay qui intervient pour le cabinet ExoCE, qui est un cabinet d'experts comptables pour CSE, qui accompagne donc les comités sociaux et économiques dans leurs consultations et même, on va dire plus largement, dans leur fonctionnement. La parole est à Clément. Merci Clément.
Merci à vous pour la parole. Donc, tout d'abord, revenir sur une des premières libertés fondamentales à laquelle il faut s'intéresser dans l'entreprise, c'est celle de la citoyenneté, malgré le lien de subordination qui peut exister, qui peut porter atteinte dans une certaine mesure entre les salariés et leur employeur. Je reviens là-dessus, la relation à l'employeur qui est formalisée par un contrat de travail impose aux salariés de respecter un certain nombre de règles déterminées par le Code du travail ou de la convention collective, les accords d'entreprise, le règlement intérieur, voire aussi les notes de service. Ce qui ne signifie pas que les salariés n'aient aucun droit en contrepartie, au contraire, et il relève de la citoyenneté en entreprise, de notre point de vue, de faire respecter ce à quoi on a le droit en tant que salarié. Il est question de poser le principe que les salariés ne sont pas dépossédés de leur liberté lorsqu'ils franchissent le seuil de l'entreprise. On peut relever en premier lieu qu'il faut faire preuve de discernement lorsqu'on aborde ce sujet et relier les situations à l'activité professionnelle et à ses contraintes. D'ailleurs, le Code du travail fixe une limite aux restrictions en la matière par le biais de l'article L1121-1 du Code du travail qui prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. En d'autres termes, les règles dont l'employeur impose le respect doivent être utiles à l'exécution du travail sans plus. Un exemple, un employeur ne pourrait pas imposer le port d'un EPI, qui est l'équipement de protection individuelle, à un salarié non soumis au risque pour lequel celui-ci est prévu. Vous avez déjà abordé la chose, les représentants du personnel ont pour mission de s'assurer que les différentes règles souhaitées par l'employeur respectent ce principe au travers du règlement intérieur, qui est très intéressant. Et ce règlement, il est soumis à l'avis préalable du CSE. C'est un des éléments déjà majeurs à faire respecter dans les entreprises. Ceci étant, rien n'interdit aux salariés d'interpeller l'employeur à travers les représentants du personnel, ce qui vient d'être abordé, pour tout ce qui pourrait porter atteinte à leur liberté. C'est même une possibilité que prévoit le Code du travail à travers des dispositions organisant les réclamations individuelles et collectives. Il vient d'être abordé le fait du droit d'alerte. On pourra voir aussi d'autres exemples. Je dirais qu'un bon moyen de faire respecter les libertés, et ceci dès l'embauche, est de se mettre en relation avec les représentants du personnel. Pourquoi ? D'une part, ce sont les personnes les plus à même d'apporter une information précise et pratique sur les droits statutaires des salariés, puisque c'est des personnes qui sont formées pour ça, mais également pour ce qui relève des activités sociales du CSE. Et d'autre part, cela évite aux salariés d'avoir à s'exposer individuellement et frontalement dans certains cas pour se mettre en difficulté, d'où la nécessité de passer par ces organes de représentation du personnel. Il y a aussi un enjeu plus large à ce point d'entrée, qui me semble à travers les libertés syndicales, c'est vecteur de liberté et d'émancipation sans égale pour les salariés. La liberté syndicale est l'une des libertés fondamentales garanties constitutionnellement, car la liberté de s'adresser aux représentants du personnel, très souvent élus sur des listes présentées par les organisations syndicales, induit celle de se syndiquer soi-même, de se présenter aux élections professionnelles, de prendre part à des journées de formation syndicale, par exemple. Il faut tout de même avouer que les salariés souffrent souvent d'un déficit de leurs droits, qu'ils soient spécifiques ou non à leur entreprise, et se contentent souvent de faire ce qu'on leur demande au risque de subir parfois des situations anormales. Il nous semble important aussi d'aborder la question des libertés par leur caractère collectif. La défense ou la prise en compte collective des libertés permet de les garantir également à titre individuel. En matière de respect des libertés individuelles des salariés, certaines thématiques sont assez clairement identifiés ont fait l'objet de précisions jurisprudentielles. Il en va ainsi du respect de la vie privée, y compris pendant le temps de travail. L'employeur n'a aucun droit à s'immiscer dans la vie privée des salariés ou encore publier des informations à caractère privé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Nombre de situations peuvent mettre en jeu cette notion de respect de la vie privée. Il convient de bien analyser des choses dès lors qu'on a le sentiment que l'employeur franchit la limite. La jurisprudence réserve parfois quelques surprises en admettant ce qui pourrait sembler une entorse à ce principe, telle que la décision validant le fait qu'un employeur fasse part de son désaccord à un salarié qui souhaitait déménager à 400 km de son lieu de travail du fait de son obligation de sécurité. Autre thématique des libertés, le salarié bénéficie d'entreprise et hors de celle-ci de sa liberté d'expression, sous réserve de respecter ses obligations de discrétion et de loyauté. C'est-à-dire que le salarié, il est libre de s'exprimer, mais ne doit pas révéler des informations qui pourraient nuire à l'entreprise. C'est le cas d'informations, par exemple, économiques ou stratégiques. De même qu'il ne peut pas avoir pour objectif de porter atteinte à son entreprise. Et donné que nous, on peut être confronté dans d'autres métiers d'experts comptables missionnés pour le CSE, sont dites confidentielles, donc doivent rester dans le cadre de l'entreprise, que ce soit pour les salariés comme pour les élus, mais ces informations ne doivent pas sortir de l'entreprise. Il s'agit pour le salarié à exprimer une opinion et à s'exprimer sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Ceci est toutefois dans la limite des propos qui ne doivent pas constituer un abus tels que des termes injurieux. Étant entendu par ailleurs que l'exercice de la liberté d'expression ne doit s'exercer sous aucune contrainte, directe ou indirecte, de la part de l'employeur. Et par extension, les salariés sont libres d'agir en justice à l'encontre de l'employeur ou de participer à une action en justice contre celui-ci sans que cela puisse motiver une rupture du contrat de travail. L'apparence, un autre élément important, reste également un terrain sur lequel chacun et chacune est libre de ses choix. Je précise, l'employeur peut seulement imposer le port d'une tenue spécifique lorsque l'emploi le nécessite, type une blouse ou des choses comme ça pour des métiers autour de la cosmétique ou de la pharmaceutique, qu'il s'agisse de considérations sanitaires, ça a été le cas lors du Covid, de sécurité ou de relations avec les clients de l'entreprise. À défaut de telles contraintes professionnelles, les salariés sont libres de se vêtir et de se présenter de la manière dont ils souhaitent. Cela peut paraître banal de le dire, mais la question de l'apparence est un enjeu social et sociétal auquel il faut prêter attention afin que ne s'exerce aucune discrimination en la matière, qui peut parfois en abriter une autre d'une nature différente. Par exemple, dans nos exemples par le passé, ce fut le cas d'une salariée sur la région de Côte d'Or qui était homosexuelle et à qui on reprochait ses cheveux coupés ras et son sweatshirt à capuche. Difficile donc de détacher l'attaque sur le vestimentaire d'un arrière-fond d'homophobie. J'en profite aussi pour souligner que le respect des libertés est également l'affaire de celles et ceux qui voient ces libertés bafouées, et qu'il faut bien veiller à ne jamais rater une occasion de lutter contre de telles atteintes qu'elles portent sur le respect des droits les plus anodins, comme ceux relatifs à l'orientation sexuelle, aux origines ou aux choix confessionnels. Sur ce terrain, d'ailleurs, l'employeur n'a aucun droit, sauf à ce que le port de signes religieux soit contraire au respect des consignes de sécurité ou sanitaires. Je rappelle aussi, au passage, l'existence de référents sexuel et agissement sexiste, pour lequel il ne faut pas hésiter à saisir ces personnes, avec lesquelles il faut être exigeant pour que cette disposition du Code du travail soit appliquée et renforce sa mobilisation. La loi et les conventions définissent un certain niveau de droit pour les salariés, mais également pour les employeurs. C'est notamment le sujet du contrôle au travail, de la géolocalisation ou de la vidéosurveillance qui fait toujours débat au moment de sa mise en place. Là encore, le CSE est le garant et respect des libertés des salariés car l'employeur doit le consulter avant la mise en place. Mais dans les cas, on sait très bien que l'employeur n'informe pas et ne consulte pas le CSE. Les mesures sont souvent mises en place et le CSE n'est que consulté a posteriori, ce qui est un entrave vis-à-vis du fonctionnement du CSE. Imaginons une entreprise multisite où les élus ne peuvent pas être partout. Rien n'empêche la mise en place délictueuse de moyens de contrôle ou de surveillance et les salariés ont intérêt à ne pas accepter avec fatalité les décisions de l'employeur. Donc là, ça renforce l'idée que, au-delà du CSE, les salariés ont vraiment un rôle pour faire respecter ces libertés fondamentales. De manière générale, il faut retenir que le CSE doit être informé et consulté sur les moyens et les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés de manière préalable à leur mise en place. On parle bien d'information et de consultation au préalable, et pas une fois que les choses sont mises en place. Les moyens mis en place par l'employeur ne doivent pas aboutir à un contrôle permanent de l'activité des salariés, mais bien ponctuel. Parmi les espaces de liberté que les salariés gardent à l'entreprise, ils peuvent y recevoir du courrier à titre personnel, qui ne peut pas être ouvert. J'insiste bien sur cet élément-là. L'enveloppe doit arriver non décachetée, sous réserve que le caractère personnel soit indiqué en toutes lettres. Si l'enveloppe est adressée au CSE, c'est le même principe. L'enveloppe ne doit pas être ouverte par la personne qui s'occupe du courrier et remise ensuite au CSE. La messagerie électronique répond globalement aux mêmes exigences, s'ajoutant la notion de respect de la confidentialité des informations détenues. De même, les salariés peuvent obtenir de l'employeur le droit d'utiliser le matériel qui leur est mis à disposition à des fins personnelles. Cette pratique, elle doit être quand même encadrée par le règlement intérieur pour ne générer ni des abus ni de la répression. Là aussi, j'insiste sur le fait que le règlement intérieur doit être mis en place et que le CSE doit être consulté sur la mise en place de ce règlement intérieur. Rappelons également que le RGPD mis en application récemment, impose à l'employeur d'informer les salariés de l'utilisation qu'il entend faire de ces données, des données personnelles collectées, de leur durée de conservation et du droit de chaque salarié à en avoir communication à tout moment. De même, les salariés conservent leur droit à l'image, Si un employeur ayant obtenu l'autorisation d'un salarié, par exemple, sur une photographie, ce n'est pas pour autant qu'il a le droit de l'utiliser à des fins de publication commerciale, par exemple. Enfin, je terminerai le tour d'horizon avec la notion que le lien de subordination induit par le contrat de travail est limité au temps de travail, c'est-à-dire à la présence du salarié sur son poste de travail ou dans son entreprise. L'employeur n'a aucun droit sur les loisirs, ses habitudes de consommation ou d'autres engagements relevant de la sphère privée. À partir du moment où on a quitté l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation de savoir ce qui se passe dans vos vies privées. Ces différents aspects mis bout à bout doivent inciter les salariés à ne pas seulement voir dans leur relation à leur employeur la subordination créée par le contrat de travail, et les pousser au contraire à se soucier de leur liberté, qui passe également par celle des autres salariés avec lesquels beaucoup d'intérêts sont en commun. Bien souvent, le CSE et les syndicats sont perçus comme des formes d'administration bénéficiant de droits inoxydables, alors même que, vous le savez aussi bien que moi, ces droits se sont fortement réduits depuis 10 ans. La garantie du respect des libertés dans l'entreprise est directement liée à la capacité d'action du CSE, des syndicats dans l'entreprise, elle-même directement liée à la capacité des salariés à s'emparer de ces moyens de défense de leur intérêt collectif. Donc, c'est là où il y a plusieurs niveaux d'intervention possibles, en commençant par les salariés eux-mêmes vis-à-vis de leurs collègues, à travers le CSE, puisque les représentants du personnel sont aussi là pour représenter les salariés et défendre les libertés, et ne pas hésiter à informer le CSE lorsque les salariés décèlent des problèmes vis-à-vis du non-respect de leurs libertés fondamentales. Voilà pour la vision de notre point de vue sur les libertés en entreprise. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions.
Merci beaucoup, Clément.
Merci à vous.
J'aurais une question qui peut échoir tant au professeur Minier qu'à Clément. Dans les entreprises qui ne sont pas dotées de représentants du personnel, quels qu'ils soient, comment les salariés font ? Ces entreprises sont très nombreuses. Souvent, on rappelle que l'essentiel des salariés travaillent dans ce genre d'entreprise. Donc, comment ça se passe ?
J'ai pas beaucoup d'éléments sur comment ça se passe, en fait, parce que moi, j'ai des éléments que je vois sous l'angle contentieux, c'est-à-dire comment faire respecter un certain nombre de droits. Alors, tout dépend des droits qui sont en cause. Il y a un élément important, c'est le fait que les salariés sont toujours plus forts s'ils connaissent leurs droits. Et une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'il y a une perte absolument... Moi, j'ai été pendant 30 ans inspecteur du travail dans une vie antérieure, et j'ai pu voir, comme d'autres, l'érosion des droits, certes, mais l'érosion de la connaissance des droits. Alors que sur un certain nombre de points, mon propos sera très nuancé, mais sur un certain nombre de points, le droit progresse. Que ce soit en matière de santé-sécurité ou sur d'autres terrains, le droit progresse. Donc, il y aurait un enjeu pour tous les salariés de connaître leurs droits. C'est aussi pour ça que je suis très heureux d'être professeur au CNAM, parce qu'on diffuse la connaissance du droit de manière très large. Quand les choses deviennent très conflictuelles, c'est très compliqué quand il n'y a pas d'interlocuteur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de délégué, en particulier du CSE dans l'entreprise, suivant les contextes, hein, il faut toujours examiner les affaires de manière très précise au regard des problématiques. Il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir, mais c'est pas de même nature. On peut avoir parfois l'intervention du médecin du travail, évidemment, si un certain nombre d'atteintes portent atteinte à la santé, mais ça ne joue que pour une partie des problématiques. On peut avoir une intervention de l'inspection du travail. Mais l'inspection du travail, elle peut intervenir de manière très pertinente et efficace sur les questions de santé et sécurité. En revanche, elle n'a pas de moyens sur toute une série de questions qui sont des questions purement contractuelles. Donc, dans les entreprises où il n'y a pas du tout de comité social et économique, eh bien, il est plus difficile, évidemment, de faire respecter un certain nombre de droits. Je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que, normalement, il doit y avoir un comité social économique dans toute entreprise qui occupe au moins 11 salariés. Et donc, dans un certain nombre d'entreprises, il n'y a pas de comité parce qu'il n'y a pas de salariés qui se présentent aux élections. Et donc ensuite, effectivement, il n'y a pas d'élus qui peuvent intervenir. Mais dès 11 salariés, nous devrions avoir un comité et les délégués peuvent déclencher plusieurs droits d'alerte. Je n'ai parlé que d'un droit d'alerte, ils peuvent déclencher plusieurs droits d'alerte. Ma réponse est à compléter, hein, parce que je n'ai pas du tout une vision exhaustive des situations.
Merci beaucoup, professeur. Clément, est-ce que...
Je compléterai, alors je serai comme monsieur Minet sur la méconnaissance pour les structures de moins de 10 salariés qui n'ont effectivement pas de CSE comme référent par l'expérience, si on peut dire ça comme ça, syndicale, dans les structures, dans les très petites structures, souvent est fait appel aux relais syndicaux locaux, type union départementale ou des choses comme ça, pour lesquelles les salariés se réfèrent aux organisations syndicales nationales. Le problème, et je rejoins tout à fait M. Minet, sur la méconnaissance de leurs droits fondamentaux, que ça soit les salariés ou même les CSE, qui sont bien souvent élus sans forcément connaître l'ampleur de leurs possibilités. Le droit d'alerte en fait partie, et comme l'a dit très bien Monsieur Minet, le CSE ou même le salarié peut déclencher autant de droits d'alerte qu'il juge nécessaire, puisqu'il y a le caractère un danger grave et imminent en termes de liberté, de sécurité. On a pu déjà aborder ça lors de précédentes webconférences. Donc, c'est un bon élément. Nous, ce qu'on conseille, nous, pour les entreprises qui n'ont pas forcément accès à cet organe qui est le CSE, de se référer aux organisations syndicales qui peuvent être déjà un bon appui en termes de connaissances, en termes de code du travail.
Merci beaucoup Clément, et oui, on espère tous que l'exercice auquel on vous a invité, auquel vous avez répondu, permette à tous ceux qui participent de mieux connaître leurs droits et de mieux en informer autour d'eux et les faire exercer. Nous donnons la parole à Maître Cavigné. Bien, la parole est à vous, Maître.
Oui, et cette fois-ci, bonjour à tous. J'espère qu'on va rester en bonne connexion comme il se doit. Peut-être pour compléter un tout petit peu ce qu'ils viennent de se dire, c'est vrai que le CSE est devenu un organe très important dans la défense des droits des salariés. Et ça fait partie, c'est assez important pour le souligner, des cas où s'il aurait dû être mis en place et où il ne l'a pas été, les salariés ont automatiquement droit à dommages et intérêts en cas donc de contentieux prud'homal. On n'a pas tant de sphères que cela de cette nature, mais c'est dire si pour le législateur, mais également pour la Cour de cassation, le CSE aujourd'hui a une place très particulière dans la défense des droits des salariés. Ceci étant dit, pour reprendre les différents points que vous m'aviez demandé d'aborder, ont été évoquées il y a quelques instants les libertés fondamentales des salariés au sein des entreprises de façon générale et plus particulièrement sous l'angle du Code du travail. On m'a demandé d'intervenir sur ce qui limitait d'un côté finalement le champ de ces libertés et en même temps quels sont les outils que l'on est susceptible de mettre en avant à l'inverse pour pouvoir les exercer pleinement. En l'occurrence, quelle est la logique quand même qui préside de façon générale, et c'est quelque chose que l'on connaît assez bien en droit, c'est qu'on peut avoir des hypothèses où des normes de valeurs identiques doivent finalement trouver à se concilier. Ce qui conduit le législateur à essayer, et la Cour de cassation plus particulièrement, à essayer de trouver un point d'équilibre entre les normes. Et on voit bien que d'un côté, on a finalement des outils pour faire valoir les droits, et puis de l'autre côté, il y a des limites pour éviter les excès, mais c'est finalement ce que l'on connaît en tant que citoyen de façon générale. Je reprendrai simplement, du coup, plutôt sous l'angle des limites, les principaux droits qui sont ceux des salariés au sein de l'entreprise. On a, je vais pas vous l'infliger à nouveau, cité tout à l'heure l'article L1121-1 du Code du travail sur justement les droits des salariés et les conditions des éventuelles restrictions. Le premier droit qui me semble intéressant, parce qu'on a souvent l'impression qu'il n'a pas de limite, et c'est pas totalement vrai, c'est le droit à la vie privée. Une approche, je vais dire, première peut considérer, amener à considérer que le professionnel, c'est le professionnel, et puis la vie privée, finalement, est insusceptible d'être mise en avant par un employeur pour sanctionner un salarié. C'est vrai dans le principe, c'est vrai, j'allais dire, de façon presque intégrale. Néanmoins, on a quelques cas un peu particuliers où un employeur a pu être amené à finalement sanctionner un salarié, et souvent c'est sous l'angle plutôt des relations sentimentales, où on a pu considérer que le principe, dans son principe, une relation amoureuse entre deux salariés ne justifie pas un licenciement, sauf si la relation est de nature à créer un trouble dans l'entreprise. Alors, c'est un peu topique. Moi, je me rappelle de l'hypothèse qui était la suivante. C'est le salarié qui, dans un cadre de prime abord privé, entretenait une relation sentimentale avec la femme de son employeur. Et curieusement, l'employeur a pris la chose relativement mal, et la Cour de cassation a considéré qu'effectivement, avoir une relation sentimentale avec la femme de son employeur, c'était susceptible de sanctions, et ça ne relevait pas exclusivement, finalement, de la vie privée. Ça traduisait une forme de déloyauté vis-à-vis de son employeur. Ceci dit, c'est quasiment un des rares exemples, pour ne pas dire le seul. Vous pouvez librement acheter les produits d'une marque concurrente. Vous pouvez manifester dans un cadre public pour dénoncer un certain nombre d'atteintes par les employeurs aux droits des salariés. Tout cela ne pose aucune difficulté. Bon, c'est vraiment l'exception, la vie privée, un cas particulier. Plus intéressant et très utile en pratique, finalement, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est vraiment la liberté qui a le vent en poupe au niveau de la Cour de cassation, à telle enseigne que, assez récemment, par un arrêt d'assemblée plénière, la Cour de cassation a décidé pour la première fois d'écarter les dispositions de la loi de 1881 sur la presse, qui fait partie des grandes lois de la Troisième République, pour faire primer la liberté d'expression au visa justement de la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et nous avons évidemment vu, je veux dire, ce mouvement de fond en droit du travail, et j'attire votre attention sur le fait que c'est extrêmement utile en pratique. Donc, le principe, c'est liberté d'expression. Si, dans le cadre d'un contentieux, et ce n'est pas exceptionnel, un employeur vient faire grief à un salarié d'avoir fait usage de la liberté d'expression qui est la sienne, et dans le cadre du respect des limites posées à celle-ci, que je reprendrai dans quelques instants. Alors, le seul fait d'avoir porté atteinte à une liberté fondamentale, je parle de liberté d'expression, mais une liberté fondamentale même de façon générale, va conduire à déclarer nul le licenciement, quels que soient les griefs par ailleurs formulés et figurant dans la lettre de licenciement. Pour vous donner un exemple qu'on a bien connu au cabinet, un salarié directeur d'une clinique, le directeur de son service, c'était le service technique de la clinique, se voit reprocher toute une série de griefs qui auraient pu être fondés ou non, même si on soutenait que ce n'était pas fondé. Et dans la lettre de licenciement, l'employeur va dire « Vous avez annoncé à votre équipe que vous étiez convoqué à un entretien préalable de licenciement. Nous avons invoqué la liberté d'expression. La Cour d'appel de Dijon nous est suivie en disant « Dès lors que on porte atteinte à la liberté d'expression, qui n'était pas excessive, c'était une simple information. » À partir de là, tout le licenciement est nul, sans qu'il soit même donc nécessaire d'examiner les zones grièves. C'est un principe qui avait déjà été posé de mémoire en 2016, qui a été réitéré très récemment au mois de juin cette année. Et, mais c'est vraiment quelque chose d'assez courant, parce qu'on va dire « mais vous avez osé dire à votre collègue que vous avez osé critiquer la politique économique de l'entreprise ». Quand on sait qu'un cadre, par exemple, a l'obligation normalement de s'exprimer, de donner un point de vue sur la politique qui est menée dans l'entreprise, on comprend que ça peut aller extrêmement loin. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, sachant que les limites, finalement, sont assez exceptionnelles en l'état, parce que la limite à la liberté d'expression, c'est l'abus, nous dit la Cour de cassation, de la liberté d'expression. Et en pratique, c'est quoi? Ce sont trois critères. Des accusations mensongères, formulées dans l'intention de nuire à l'employeur, et qui plus est, quand je dis mensongère, c'est le troisième critère, avec la connaissance acquise par le salarié de ce qu'elles sont mensongères. C'est-à-dire que si je me trompe de bonne foi, on ne peut pas m'opposer un abus dans l'exercice de la liberté d'expression. Et on a pu voir des arrêts assez intéressants où les salariés avaient même accusé l'employeur de détournement. Ils le pensaient réellement. Ils avaient des éléments matériels qui les conduisaient à imaginer qu'il y avait eu des détournements dans l'entreprise. On a considéré que, dans la mesure où ils étaient de bonne foi, eh bien, on ne pouvait pas critiquer le salarié et surtout le sanctionner à ce titre. À une époque, on avait eu beaucoup de sanctions quand le salarié disait à son employeur « je suis victime de harcèlement ». L'employeur disait « c'est inadmissible, vous m'accusez d'être un harceleur, je vous sanctionne ». À partir du moment où le salarié était de bonne foi, la Cour de cassation systématiquement a considéré que le licenciement était nul. Ce qui est également reconnu comme étant abusif, c'est quand les propos dans la forme traduisent l'injure, la défamation, l'excès. Et à ce moment-là, oui, on peut venir sanctionner un salarié. Se pose, c'est une précision qui est intéressante, la question des propos tenus sur un réseau social, et on tient compte à ce moment-là du fait que le groupe est ou non fermé ou non restreint pour savoir quelle est la portée qu'il faut, s'il y a eu abus, donner aux propos. En gros, est-ce qu'on est dans un cadre privé parce que groupe fermé ou dans un cadre tout à fait ouvert? Petite précision qui est technique, mais qui est assez intéressante parce que c'est un petit peu l'exception qui a fait parler. C'était la blague sexiste de Tex, qui était l'animateur d'une émission de télé sur France 2. Et récemment, c'était le 20 avril 2022, la Cour de cassation a validé la sanction, le licenciement dont il avait fait l'objet, en rappelant techniquement comment on devait procéder. C'est-à-dire que on doit déterminer si, oui ou non, eh bien, on est sur des propos abusifs au vu des critères que je viens de rappeler. Mais elle a surtout posé le cadre de l'appréciation de ce caractère abusif, c'est-à-dire une appréciation, ce qu'on appelle in concreto, c'est-à-dire vraiment très en appréciant ce qu'il en est très concrètement des conditions de travail, sur la base des critères suivants: les obligations contractuelles liant le salarié à son employeur, la qualité ou la nature de l'employeur, le contexte dans lequel s'inscrivent les propos, mais ça peut être également au plan médiatique, et évidemment MeToo, ça fait partie du contexte, et le comportement du salarié par la suite, avec donc le fait que l'on réitère ou non les propos qui ont été tenus. Et là, au cas particulier, on a considéré qu'il y avait une violation du contrat de travail, que les propos étaient excessifs et portaient atteinte donc aux valeurs dont était porteuse l'entreprise. Mais de façon générale, on a vraiment le principe qui est pas la règle, mais pas loin, sur la liberté d'expression. Petit mot également, ça a été abordé, mais ça me semble important, la liberté de témoigner et d'agir. C'est une liberté qui est là aussi bien protégée, et on a eu un arrêt assez récent et assez intéressant sur la question, un arrêt que je connais bien, parce que c'est un arrêt qu'on a fait casser, c'était mon cabinet, la Cour d'appel de Dijon. L'idée était la suivante, c'est que des salariés, nous disait-on, pour embêter l'employeur, avait établi une attestation qui relatait des propos justes, mais qui avait pour conséquence de nuire à l'employeur, mais de nuire juridiquement à l'employeur. Et la Cour d'appel de Dijon avait dit, mais écoutez, quand même, vous avez un minimum de loyauté, vous avez établi des attestations pour embêter l'employeur, pour qu'il perde un procès, nous ne pouvons pas accepter ça. Et la Cour de cassation a cassé cette décision, considérant que ce qui comptait dans la liberté de témoigner, en l'occurrence d'établir l'attestation. C'était simplement de savoir si ce qui figurait dans l'attestation était faux ou non. Et si c'était faux, est-ce que c'était volontairement présenté alors qu'on avait donc la connaissance de la fausseté. En l'occurrence, on a considéré que quel que soit le contexte, on devait donc s'en extraire complètement. Ce qui comptait, c'était de savoir si l'attestation était vraie ou fausse, point. Et j'attire votre attention sur quelque chose que l'on voit extrêmement fréquemment, c'est ce qui figure dans les transactions. Parce qu'on voit des transactions où l'employeur dit « tu t'interdiras d'attester contre moi » ou de façon un peu plus fine, si je puis dire, le salarié, dans le cadre de la transaction, s'interdit de nuire aux intérêts de l'entreprise. Et on sait que l'interdiction d'établir des attestations, on voit bien la finalité, hein, c'était de dire on n'a pas envie de perdre un prud'homme alors qu'on est en train de transiger et qu'il y a une obligation de confidentialité qui plus est dans notre transaction. Eh bien, la position de la Cour de cassation est très claire, c'est qu'on ne peut pas transiger sur ce droit dans la mesure où chaque citoyen est tenu d'apporter son concours à la justice. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique. Sur les éléments positifs, ça a été développé, je ne vais pas reprendre à ce stade, mais on sait que tout ce qui est action en justice qui donnerait lieu à une sanction est entaché de nullité parce que porte atteinte à une liberté fondamentale. Sur l'aspect physique, a été abordé il y a quelques instants la liberté de s'habiller, c'est un peu mis en lien actuellement en jurisprudence avec la liberté religieuse. On sait simplement qu'il faut tenir compte de la nature de la tâche à accomplir, du côté proportionné de l'atteinte portée au vu du but recherché, et que l'on tient compte de façon générale du fait de savoir si le salarié est en relation ou non avec la clientèle, s'il travaille dans une zone qui est ou non ouverte au public. Et soit on a dans le règlement intérieur une obligation de neutralité, soit à défaut de règlement intérieur, il faut que l'employeur apporte la preuve d'une exigence professionnelle avec deux critères cumulatifs nécessaires et déterminantes, nous dit la Cour de cassation. Souvent, ce sont des obligations de sécurité. Pendant que j'aborde l'aspect physique, je voudrais vous dire un mot rapidement, mais c'est quelque chose qui a donné lieu à beaucoup de réactions, c'est l'obligation vaccinale. Beaucoup de salariés ont considéré qu'on était sur une atteinte à leur intégrité physique, ce qui, d'un point de vue purement technique, était, à mon sens, discutable. Mais ce qui m'intéresse plus sous l'angle des libertés, c'est que, en l'état du droit, le fait de faire travailler un salarié qui serait soumis à obligation vaccinale, c'est une infraction pénale pour l'employeur. Mais le fait également d'obliger à travailler avec une obligation vaccinale quand celle-ci ne serait pas nécessaire, là aussi, c'est une infraction pénale. Donc, on voit qu'il faut vraiment être sur la ligne de crête et s'assurer de ne pas tomber indûment ni d'un côté ni de l'autre. Car avec le Covid, on a vu des employeurs qui, par pure mesure de sécurité, a dit « moi, vous ne viendrez travailler que si vous êtes vacciné », alors même que la loi n'en faisait pas forcément l'obligation, ce qui n'interdit pas la mise en place de procédures de protection de la santé, de la sécurité des salariés. Mais sur l'obligation vaccinale à proprement parler, il ne faut pas oublier que la sanction pénale, finalement, c'est les deux côtés. C'est exiger ce qui ne peut pas être imposé. Et puis, à l'inverse, c'est ne pas exiger ce qui devrait l'être, finalement. Voilà pour les principaux points. Je ne reviendrai pas sur les autres libertés. Je sais que notre temps est toujours un petit peu compté. S'agissant du droit d'alerte, il a été abordé, donc techniquement, je ne vais pas trop répéter les choses. On a un délégué au CSE qui intervient, c'est l'article L2313-2 du Code du travail, lorsqu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Donc, on voit à nouveau ce point d'équilibre, une conciliation à trouver entre les intérêts de l'entreprise et l'atteinte aux droits des personnes. Si je peux apporter quelque chose en complément à ce qui a été dit, c'est que l'employeur doit procéder sans délai, effectivement, à une enquête. Ce que je vois, moi, en pratique, c'est pas trop le principe même de l'enquête, parce qu'il est compliqué pour un employeur de dire « je ne ferai rien », surtout si on lui rappelle les termes du Code du travail. Ce qui va poser difficulté, c'est la manière dont est menée l'enquête. Quelles sont les différentes missions? Quel est l'objet de l'enquête? Et c'est là-dessus qu'on peut avoir beaucoup de difficultés, parce que de deux choses l'une, soit vous avez un employeur qui est totalement désintéressé, qui n'a pas de difficulté, n'a pas de souci. Mais si on commence à dire, je pense qu'il y a une atteinte aux droits des personnes parce que mon directeur harcèle un salarié, il est évident que l'enquête sera pas forcément menée avec la même bonne volonté et que les personnes à entendre, les conditions d'accès aux documents, la manière dont on peut interroger les personnes d'ailleurs, est-ce que ce sera à visage découvert ou non, tout cela va beaucoup jouer, de sorte que en cas de désaccord sur le principe même dans l'enquête ou sur la manière dont cette enquête va être menée, on est effectivement sur une saisine du Conseil de Prud'homme au fond dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Et c'est le Conseil de Prud'homme qui finalement va trancher soit sur le principe, soit sur la manière dont doit être menée l'enquête, le cas échéant également sur la légalité, la licéité ou non des éléments de preuve qui sont susceptibles d'avoir été obtenus par l'employeur. Donc, si je peux donner un conseil, c'est vraiment de se battre sur les termes de cette enquête, parce que cette enquête, elle joue dans les deux sens. Si un salarié dit qu'il est harcelé et qu'une enquête menée de façon paritaire finalement aboutit à ce qu'il n'y ait pas de constat, ça va jouer contre le salarié. Donc on aura agité d'une certaine manière, fait usage d'un outil potentiellement extrêmement utile qui, in fine, va jouer contre le salarié, l'employeur disant « mais attendez, on a fait le travail, on constate qu'il ne se passe rien, donc circuler, il n'y a rien à voir ». Donc, c'est plus, moi, sur cet aspect pratico-pratique que j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent. Toujours dans les différents outils dont on dispose, le défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est vraiment un outil qui marche bien, dont on peut avoir un usage presque immodéré. Il a de véritables pouvoirs. Donc actuellement, je dis « il », mais c'est Claire Hédon qui est défenseuse des droits. On sait qu'il a un pouvoir d'instruction des dossiers, possibilité d'auditionner les personnes mises en cause, d'exiger la communication de toutes les informations qu'il estime utiles et de procéder même à des vérifications sur place. Et on sait que le fait de porter atteinte aux prérogatives du défenseur des droits est pénalement sanctionné, c'est un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Donc très concrètement, on saisit, on écrit le défenseur des droits, on essaye d'amener un minimum d'éléments et puis, je veux dire, même si on a peu d'éléments, de porter à la connaissance du défenseur des droits quels sont les éléments qui méritent vérification. C'est un outil qui est extrêmement précieux quand le salarié, finalement, a peu d'éléments de preuve. Parce que quand on a déjà beaucoup de témoignages, on peut aller devant le conseil de prud'homme directement, il n'y a pas de difficulté. À titre personnel, le défenseur des droits, c'est quand je sais de prime abord qu'une situation portant atteinte aux libertés existe, mais que j'ai peu d'éléments, parce que c'est la loi du silence, parce que je n'ai pas accès aux documents personnellement. Donc, indiquer au défenseur des droits qui entendre, quels sont les documents à appréhender. Effectivement, en pratique, on voit que l'employeur se soumet, plus ou moins de bonne grâce, mais se soumet donc aux différents actes. Et puis, on est en relation petit à petit avec le représentant du défenseur des droits avec lequel on travaille, sachant que s'il n'y a pas de transaction obtenue, qui doit être qui plus est obtenue et validée après l'aval du procureur de la République, et on voit très concrètement que le défenseur des droits est présent et mène sa mission jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je pense que pour eux, c'est un peu frustrant, sinon parce qu'ils font tout le boulot et puis ils ne connaissent pas forcément la fin de l'histoire. Donc, quand on lui dit « bah écoutez, on a transigé, mais c'est confidentiel », des fois, ils ne sont pas très contents. Toujours est-il que s'il doit y avoir contentieux, il faut savoir que la Chambre sociale de la Cour de cassation a validé le principe même de l'audition du défenseur des droits ou de son représentant par le Conseil de prud'homme et a néanmoins posé une limite en disant que pour autant, ça ne dispensait pas la juridiction prud'homale de procéder à l'étude des pièces qui lui sont soumises et que la seule déclaration du défenseur des droits ne saurait en tant que telle valider une situation. Mais en pratique, ça pèse de façon extrêmement importante. Toujours sur les différents moyens de recours, quelques mots également de la position de la CNIL. Alors, la CNIL, en pratique, souvent, on invoque son existence pour ne pas avoir besoin d'avoir recours à elle. C'est quoi ? C'est déjà tous les fichiers. Vous savez que les fichiers ne doivent pas contenir de données dites sensibles. Donc, les données sensibles, c'est l'origine raciale, l'origine ethnique, l'opinion politique, les convictions religieuses. Et là, pour le coup, on peut faire un lien sur la tenue vestimentaire. La liberté de s'habiller n'est pas une liberté fondamentale, je le précise. D'avoir une tenue libre, hein, j'entends, n'est pas une liberté fondamentale. Ça a été jugé. Toujours est-il que ne doivent pas figurer non plus dans les fichiers donc convictions religieuses, philosophiques, appartenance syndicale, bien évidemment. Et ça, c'est tentant pour certains employeurs. Les données génétiques, les données biométriques, et ce qui permet plus généralement d'identifier une personne physique. Donc, tout cela n'est pas dans les fichiers, normalement. Très concrètement, je ne suis pas sûr que le salarié puisse, quoi qu'il en soit, avoir vraiment connaissance de ce qui figure dans les fichiers, mais on a quand même quelques affaires qui font parler d'elles, y compris donc très récemment. Quoi qu'il en soit, ce qui me semble important, c'est que nous avons un droit d'accès finalement aux fichiers. Et c'est ça qu'on met en avant avec la menace de saisir la CNIL qui peut, à ce moment-là, sanctionner un employeur. C'est par exemple nos heures supplémentaires, pour être très concret. Je badge, je veux savoir à quelle heure je suis arrivé, à quelle heure je suis reparti. Si mon badge est nominatif, j'ai accès à mon badge. Lorsque vous avez des analyses de cartes électroniques pour les conducteurs routiers, si je veux avoir accès à ces données, j'ai un droit par principe, indépendamment même de la convention collective, d'accès à ces données. Donc, de façon générale, à chaque fois que vous avez un fichier qui peut vous être utile, eh ben, la menace de saisir la CNIL, qui, lorsqu'elle finalement mène sinon ses investigations, là aussi, l'entrave à l'action de la CNIL est pénalement sanctionnée, mais la menace de saisir la CNIL m'apparaît particulièrement pertinente et la plupart du temps suffisante. Et puis, si vous allez en référer pour demander des pièces, le simple fait de dire que vous y avez un accès légal, normalement, doit convaincre le juge de la pertinence de votre démarche. Je terminerai, je n'ai pas regardé l'heure, je suis trop long, Frédéric, je terminerai sur un point, mais sous l'angle des libertés, qui est fondamental. Depuis le 1er septembre 2022, le statut des lanceurs d'alerte a été élargi. Ça veut dire que le fait de dénoncer la commission d'un délit dont on serait victime ou dont un autre salarié, et c'est ça qui est nouveau, aurait été victime, vous confère sur le principe le statut de lanceur d'alerte. De sorte que si vous faites l'objet de sanctions par la suite, on va présumer que les sanctions sont en lien avec ce statut et ne peuvent pas être infligées, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve de l'absence totale de lien entre le statut de lanceur d'alerte qui vous est attribué et le fait donc de vous sanctionner. Et quand je dis dénoncer un délit, en matière de droit du travail, ça va très très vite. Parce que si vous dites que les heures supplémentaires sont pas payées et que c'est du travail dissimulé, vous dénoncez un délit. Si vous dénoncez des manquements à des règles de sécurité en disant que ça peut être un manquement manifestement délibéré à des obligations de sécurité imposées par la loi ou le règlement, c'est un délit. En matière de transport, très vite, tout ce qui est manquement à la sécurité, ça va être un délit. Donc, il est très facile aujourd'hui pour les salariés de se passer sous la protection du statut de défenseur d'alerte en disant « mais attends, le monsieur à l'accueil, tu ne le payes pas correctement, tu ne lui payes pas tout » et de bénéficier ab initio d'une protection qui n'est pas totalement, totale. Hein. Encore une fois, ça n'interdit pas à l'employeur de prendre des sanctions et licencier, mais ça l'obligera à prouver que les sanctions sont sans lien aucun avec ce statut de défenseur d'alerte. Donc voilà, si je peux, les décrets viennent de sortir. On a les premiers commentaires qui sont tombés cette semaine sur les décrets, mais je ne serai pas plus long. Et s'il y a des questions, je suis évidemment à disposition.
Merci beaucoup, maître. Toutes vos interventions étaient très, 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 très riches. J'aurais, pour ma part, une ou deux questions et je remercie tous ceux qui ont participé. Vraiment, vous avez parlé du défenseur des droits. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, jeudi prochain précisément, sera présent la MAPCODE qui localement héberge les services des défenseurs des droits et en pratique le représente sur le territoire. Donc, ce sera l'occasion de prolonger le travail que nous avons fait aujourd'hui, même si on se concentrera plus spécifiquement sur la question des discriminations en entreprise. Avant de conclure, et s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il n'y a pas de main levée, mais avant de conclure, j'aimerais, et puis je vois qu'il y a certains qui s'en vont, donc ben, si vous êtes obligé de partir, voilà, merci d'avoir été là. Vous avez parlé du droit d'alerte, tous, hein. Le droit d'alerte prévoit la possibilité pour le conseil de prud'homme d'ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît utile. Maître Gavigné mettait en évidence, je pense à juste titre, la difficulté qui peut exister lorsque l'employeur est directement concerné par l'exercice du droit d'alerte. Lorsque, par exemple, il a eu des comportements sexistes, il a fait du chantage sexuel, du harcèlement, etc. Il peut être effectivement peu enclin à enquêter ou à conduire l'enquête avec une rigueur à toute épreuve. Jusqu'où peuvent aller ces mesures d'instruction? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer qu'un acteur externe exerce l'enquête ou demander tout simplement l'intervention du juge d'instruction? Ça, c'était ma première question. Le deuxième, qui est un peu lié, mais c'est vrai que souvent, quand on parle de liberté fondamentale, la difficulté réside dans l'administration de la preuve de l'atteinte, qui, du point de vue purement juridique, peut être assez difficile à démontrer. Quelles précautions on peut prendre pour faciliter les choses? Et puis, dernière chose, récemment, depuis quelques années, on parle beaucoup de la loi sur le secret des affaires. On a parlé des lanceurs d'alerte. Comme toutes ces informations volent un peu dans la sphère médiatique, quelles limites le secret des affaires aujourd'hui impose-t-il à l'exercice des droits d'alerte lorsque ça va concerner, bien entendu, notre sujet du jour, hein, c'est-à-dire des libertés fondamentales en entreprise? Je ne sais pas qui voudrait prendre la parole en premier. J'imagine Maître Gavigné.
Bon, je peux en dire quelques mots. J'espère que je n'oublierai rien. Quand on a un CSE, là, effectivement, on est sur la procédure particulière donc du délégué CSE qui constate une atteinte aux droits des personnes. Ce dont il faut un peu se méfier, tu parlais Frédéric, des éléments de preuve, c'est que quand on arrive devant le conseil de prud'homme, le conseil de prud'homme a tendance à vouloir contrôler l'opportunité des mesures de contrôle, des mesures d'enquête. Et du coup, le positionnement souvent de l'employeur consiste à dire, bah écoutez, vous voulez qu'on investigue sur tel et tel point, mais... vous avez qu'à déjà justifier du bien fondé de vos mesures d'investigation. Ce qui n'est pas du tout maladroit en termes de défense, puisque ça consiste à mettre en amont ce qu'on pourrait trouver en aval. Dis-moi quel est le problème et justifie du problème si tu veux ton enquête. Mais j'ai un salarié qui s'exprime, je n'ai pas forcément les éléments de preuve, c'est pour ça que je demande une enquête. Donc là, on va avoir un problème très pratique. Souvent, ce que je dis aux salariés, c'est dénoncer par écrit. Mais si vous avez un employeur qui est avisé, il va contester par écrit. Je peux compléter un petit peu en disant que si on devait glisser sur une matière pénale. L'enregistrement à l'insu de l'employeur, lorsque c'est par un particulier, en l'occurrence un salarié, est recevable au plan pénal. Je ne dis pas qu'il faut forcément enregistrer systématiquement son employeur. Je dis juste que si c'est le seul moyen d'arriver à prouver ce qu'il en est, pardon, j'ai un salarié qui, frappé par sa supérieure, avait mis une caméra en place à l'insu de celle-ci pour prouver aux forces de l'ordre ce qu'il en était, parce que l'homme frappé par une femme, ce n'est pas très vendeur parfois auprès des forces de l'ordre. Mais effectivement, on ne peut que conseiller d'avoir un maximum d'éléments en amont. Je ne pense pas que dans le cadre que le conseil de prud'homme puisse saisir un juge d'instruction, parce que ça n'enlève pas, à mon sens, de ses compétences. Un conseil de prud'homme, par contre, peut faire un signalement article 40 au parquet s'il considère avoir eu connaissance d'une infraction pénale, à charge pour le parquet d'apprécier l'opportunité ou non d'ouvrir une enquête sur les faits dénoncés. J'avoue qu'en pratique, dans les quelques fois où les conseils de prud'homme ont pu le faire, je n'ai jamais vu le parquet suivre. Enfin, ça fait partie encore des mesures qui sont néanmoins envisageables. C'est un pouvoir qui reste un petit peu limité pour le conseil de prud'homme, puisqu'il peut ordonner l'enquête, mais il ne peut pas directement, personnellement, finalement, procéder lui-même à l'enquête. Donc, il y a quand même des limites. Il peut ordonner à l'employeur d'organiser l'enquête. Il peut effectivement fixer les points à vérifier, mais il ne peut pas dire d'emblée « faites ceci ou faites cela ». S'agissant du secret qui désormais est opposé par les entreprises, alors on n'a pas beaucoup de recul hein, par définition sur les compétences aujourd'hui dans le cadre de l'enquête. J'aurais plutôt tendance à penser que le secret peut être opposé en l'état du droit. La question, ce sera la frontière. C'est-à-dire que oui ou non, on est dans un cadre qui autorise à opposer le secret en raison donc des intérêts impérieux de l'entreprise. Le problème, c'est que quand on cherche, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver et que ça va être un débat en amont. Si on était cohérent, on pourrait considérer que si les documents étaient appréhendés et qu'ils s'avèrent en violation de la loi, l'employeur, c'est un principe presque de parallélisme des formes, pourrait dire « cette pièce doit être écartée ». Moi, je le verrais plutôt dans ce sens. Mais très, très rapidement et très succinctement, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Frédéric, et puis mon confrère et les autres intervenants voudront peut-être, quoi qu'il en soit, compléter.
Merci beaucoup. Peut-être que oui, c'est globalement, vous avez répondu, professeur Minet. Est-ce qu'il y a des points que vous, sur les questions?
Non, je vais pas compléter. Je suis pris en fait par le délai parce que je dois me rendre à quelque chose, à une autre intervention à 14h30 et donc je voulais pas partir avant la fin, mais je vais pas compléter. Mais il y aurait une véritable séance à faire sur lanceur d'alerte et droit des affaires. Hein. On a plusieurs affaires là qui sont dans les tuyaux, avec notamment une entreprise qui attaque à titre préalable un organe de presse avant qu'il publie une enquête qui lui déplaît. Et donc là, on a vraiment de la matière pour quelque chose de très important. Donc, je voudrais pas le traiter de manière trop lapidaire.
Oui, en tout cas, on comprend bien que ça vient impacter l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise. Si ça,
oui,
si
et puis, déjà, et puis ça fondamentalement, je change de registre, mais le droit d'enquête, le droit d'investigation de la presse, des médias de manière générale, hein. Bien sûr.
Merci, professeur. Merci, oui.
C'était simplement pour vous saluer les uns et les autres et pour vous dire que j'étais ravi d'échanger avec vous et je vous envoie un PowerPoint et je vous dis à très bientôt.
Merci professeur, à bientôt et merci à tous d'avoir participé. Merci maître, merci Clément, merci à tous qui étaient invités. Merci à Khadija qui est là et puis et qui m'a aidé à préparer ce webinaire. Je vous dis à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à tous, au revoir, bonne fin de journée.
Oh putain de société. C'est un petit carnet. Je traite un parcours de tête. Refusé de m'appuyer à la conformité. Et un truc qui m'entête. C'est un petit carnet. Au travail.
Mais un truc qui m'embête, un truc qui m'embête, il faut travailler.